ça s'entend, ça, ça vous a plu. Alors vous allez être gentil et vous allez les remercier en les interrogeant. Justement, c'est d'une banalité. On va changer un peu là. Donc Colette, tu ne poses pas de questions non plus. Allez, faites un effort. Ils en ont fait un. Allez, Cathy, merci. Prenez la bébête, tiens. Tu veux bien ?
Question à Didier, à propos de la citation que tu fais de Lacan sur la contre-analyse dans la suite que c'est de l'on l'a vu. Donc en t'écoutant, je me questionnais parce que l'Oedipe, ça fait longtemps qu'il a critiqué, qu'il a dépassé dans son enseignement. Et pourquoi là, il ramène dominance symbolique, enfin une analyse qui se termine sur le deep, pour parler d'une contre-coupure. En fait, je sais pas si ma question.
Il marche plus. Nicolas, qu'as-tu fait? Essayez, Cathy. Tapotez celui sur la tête pour voir si, ce qu'il dit.
Oui, ben, j'avais terminé ma question. Je sais pas si... Ça marche ? Tout cas, ça marche. Voilà, donc en fait, ça m'interroge cette histoire de contre-analyse amenée dans la succession de Libellu, où ça ferait référence à une analyse qui termine sur le deep, alors ça fait longtemps que Lacan. C'est toi qui dis qu'une analyse qui ferait dominer le symbolique, c'est une analyse qui s'en tiendrait à le deep.
Oui, c'est moi qui le dis, c'est pas Lacan. Hein.
Ah oui, oui.
Non. C'est moi qui en suis resté. Non, c'est pour bien faire la différence.
Oui, mais.
Donc, je peux redire la phrase de Lacan, parce que c'est vrai que je la reçois, elle est intéressante. Le fait d'avoir franchi une psychanalyse est quelque chose qui ne saurait en aucun cas être ramené à l'état antérieur, sauf bien entendu à pratiquer une autre coupure, celle qui serait équivalente à une contre-psychanalyse. Voilà. Et puis, c'est magnifique, mais en même temps, Patricia en a parlé tellement bien. Il dit, c'est bien pourquoi Freud insistait pour que les psychanalystes refassent ce qu'on appelle couramment deux tranches, c'est-à-dire qu'ils fassent une seconde fois la coupure, restaurant ainsi le nœud borroméen dans sa forme originale. C'est-à-dire, dans le séminaire d'Insu, il n'en est plus du tout à en effet à faire une référence à l'audit. C'était clair. C'était plutôt comment passer de une fois qu'on a cerné le noyau de la jouissance, passer au dire. Enfin, alors ça, c'est une question. Non, je suis d'accord, parce que est-ce que ça veut dire parce que le nœud borroméen est original, ou est-ce que c'est pas original, il n'a pas dit originaire non plus. Hein? Il dit original. Alors, je l'ai écouté audio. Voilà. C'est ça.
De départ. Ce serait contradictoire avec le texte, oui. La forme de départ. La forme originale, ça ne veut pas dire la forme de départ. Garde le micro. Ça marche pas.
Voilà.
Oui, il l'a dit.
Mais... sans hiérarchie, c'est la question.
Alors, Cathy s'est lancée, on va pas laisser Cathy toute seule quand même. Qui est-ce qui pose une question? Oui. Si, vas-y. Non. Bien. Alors, vous nous forcez à faire comme d'habitude. Alors, comment on passe du... Excuse-moi, j'y vais direct, là. Comment on passe de la mise à jour, de l'évidence, de la mise en évidence du fantasme qui est difficile, parce que c'est la matrice de toutes les significations pour le sujet. C'est pas une signification parmi d'autres, c'est elle qui les permet. Comment tu passes de la mise à jour du fantasme, avec le temps que ça met, des différentes répétitions, à ce que tu appelles la langue et le dire, du fantasme au dire. Tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus? C'est l'essentiel, me semble-t-il, de ton propos. Donc,
Alors, moi, il y a des choses qu'on expérimente dans la cure et il y a des choses qu'on constate dans les cartels de la passe. Enfin, donc, on voit que ça se passe pas de la même façon pour tout le monde. Mais il y a, malgré tout, même s'il n'est pas repérable de façon très précise, il y a un moment de virage où, dans l'analyse, on ne parle plus de la même façon. À partir du moment où il y a un repérage, quelque chose qui fait apparaître le fantasme, c'est pas la fin de l'analyse. C'est le moment où on arrête de répéter, de se plaindre de la même façon. D'un coup, on passe à une autre façon de s'exprimer dans l'analyse et de laisser tomber. Enfin, c'est complètement inconscient. C'est pas qu'on le fait en disant je laisse mon fantasme et je parle d'autre chose. Mais on change de discours. On passe dans un autre. Alors, ce qui se passe au niveau de la langue, bon, ça c'est quelque chose qu'on repère dans l'après-coup. C'est évidemment pas une démarche qui se produit de cette façon-là. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'analyse, il y a des choses qu'on arrive à lâcher petit à petit. Et il y a des choses qu'on n'entend pas, des interprétations que fait l'analyste, qu'on les entend, mais ça n'a pas d'effet sur le corps, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. On peut recevoir une interprétation, trouver qu'elle est juste, et puis il y a rien qui change. Et puis brutalement, il y a une interprétation qui produit un effet, et à ce moment-là, rétrospectivement, il y a justement des interprétations qui ont été faites avant qui s'entendent autrement. Et en fait, voilà, c'est il y a quelque chose qui résonne, qui sans qu'on puisse l'expliquer comment, et qui produit un effet. Et c'est à un moment précis de la cure. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'interprétations. Didier a parlé d'interprétations irréversibles. Effectivement, enfin, il y a un moment où il y a ça, mais ce qui est irréversible, c'est que ça a produit un effet irréversible. Il y a pu y avoir beaucoup d'autres interprétations qui n'ont pas résonné de la même façon avant.
Alors, Patricia, d'accord. Pourquoi d'accord. Il y a de l'irréversible, il y a des phases, etc. Mais pourquoi appeler ça passer au dire? Je tique sur cette expression. Je n'arrive pas à lui donner de sens. Et donc, comment je pourrais donner sens à passer au dire?
Alors, moi, pour moi, c'est oui, voilà, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le dire, c'est justement le fait de, dans l'analyse, ne plus donner consistance au fantasme, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, mais c'est vraiment un changement de façon de on dit plus les mêmes choses, on aborde plus les mêmes sujets, c'est plus la même question qui est en jeu, il y a vraiment une autre façon et qui touche vraiment à autre chose. Et pour moi, c'est ça le dire, c'est que on arrive avec tout un discours, avec des certitudes, et il y a quelque chose qui change et on s'explique plus de la même façon. Et donc c'est ce changement, voilà. Oui.
D'accord. Bon, c'est pas ce que Lacan appelle le dire, je crois, mais on peut le désigner comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai du mal, parce qu'au fond, le dire chez Lacan, il a deux sens. Ou bien c'est l'acte de dire, mm-hmm. hein, ou bien c'est ce qui s'infère de tous les dits. Et là, il y a une proposition. On peut énoncer le dire. C'est ce qu'il fait quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel. C'est le dire de Freud. C'est inféré de tout ce qu'il a dit.
Oui.
C'est une opération qui se produit. On peut espérer qu'elle se produise dans l'analyse. Mais ce n'est pas au niveau d'un changement dans ce dont on parle, dans comment on parle, c'est une opération en quelque sorte conclusive par inférence.
Oui, hein? Mais ça produit justement
parce que le dire, il est tout le long dans l'analyse dès l'entrée. Le dire de la demande, le dire de l'interprétation, il est dès l'entrée, puisqu'il y a deux dires dans l'analyse.
Oui, le dire de l'interprétation, c'est quand même bien le dire qui aura eu un effet d'interprétation, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations qui n'ont pas d'effet. Donc pour moi, le dire de l'interprétation, c'est justement quelque chose qui se joue entre l'analyste et l'analysant, et au moment où justement cette interprétation fait mouche d'une certaine façon, ou produit quelque chose, il y a un franchissement, il y a un effet, il y a un changement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se produit entre le dire de l'analyste et ce que j'appelle le dire de l'analysant, c'est l'effet que ça produit chez l'analysant. C'est pour ça que j'ai fait un peu la distinction entre l'énonciation et le dire, parce que on est toujours du côté du discours conscient et du discours inconscient, et ce qui se. Mais là, on n'est plus dans la.
Il y a la même équivoque pour le mot énonciation que pour le mot dire. L'énonciation, Lacan l'a d'abord défini au fond comme une chaîne latente dans la parole, circule par métaphore et métonymie, et que donc on interprète au niveau de la chaîne signifiée.
Voilà, tout à fait.
Mais l'énonciation, c'est aussi la phonation, le fait.
Bien sûr. Non, mais on n'a pas de définition complètement arrêtée non plus de. Bon.
Puisque vous polémiquiez sur cette question du dire. Je me demandais aussi comment je pouvais l'entendre à partir de ce que tu en disais, et je me demandais si justement le fantasme ne faisait pas partie d'un. Le fantasme est une représentation. Une représentation du sujet, de son rapport à l'objet, via les partenaires qui y sont pris, etc. Est-ce que on peut assimiler ça donc à des dits du sujet, qui se dégagent de ces dits. Et effectivement, quand le fantasme est élucidé ou traversé, le sujet peut prendre la mesure du fait qu'il avait finalement construit une histoire à partir d'éléments empruntés, tu l'as dit très bien, à son histoire, à la langue, à sa culture, etc. Mais l'histoire, la sauce historique, c'est lui qui l'a faite. Et donc, il prend la mesure du fait qu'il y a une option de sa part, une option bien sûr inconsciente, mais une option qui, là, n'est pas un dit, mais un dire. Est-ce que c'est comme ça que tu voulais le dire ?
effectivement, enfin, on ne peut pas être très carré non plus. Sur... Oui, c'est comme ça, mais c'est vrai que quand l'analyse en parle, et même s'il est encore complètement accroché à son fantasme, il y a aussi un dire qui court tout au long, qui restera, oui, absolument. D'ailleurs, c'est parce que ce dire aussi est là que bon, ben, à la fin, il peut émerger. Enfin, c'est quand même aussi quelque chose qui est latent, qui est là. Mais
il est voilé par les significations.
Mais par les significations qu'il et voilà. Enfin, Nadine parlait aussi de la surprise. C'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire qu'on avance, sur un certain mode, et puis il se produit quelque chose là où on ne l'attend pas. Et où là justement il y a une rencontre avec quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance qui se
voilà une nouvelle question derrière, vas-y Agnès.
C'est une question pour Didier. J'ai relevé une phrase un savoir traversé, on parle de savoir traversé n'a pas la même consistance qu'un savoir appris de l'autre.
Oui.
Hein? Et je me demandais si est-ce que tu penses qu'un analyste peut être parfois cependant tenté de transmettre du savoir à l'analysant. Qu'est-ce qui peut le pousser quand même à dire?
Comme ça, je ne comprends pas. Je vais l'empêcher. Je ne vois pas ce que tu appelles transmettre du savoir. C'est pour ça que j'avais des exemples assez clairs de cette analyste.
Oui, je pensais à sa question. Oui, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui, à ton avis, puisque le fait qu'il soit mort donne une interprétation, tu supposes que peut-être il le savait, enfin qu'il a anticipé quelque chose. C'est pour ça que j'ai compris.
Non, il a anticipé, à mon avis, que. La fin de l'analyse passait par quelque chose du hors-sens et du non-sens. C'est comme ça que moi je l'ai. Et donc, avec lisez ce texte de Nelly Kaplan, qui s'appelait Bélène avant, elle avait sorti ses textes. C'est intéressant, elle était proche du surréalisme, etc., de Soupeau, enfin, je veux dire. Mais les textes, quand on les lit maintenant, c'est réservoir des sens. Je vais vous donner un autre exemple, attendez, l'impôt sur le revenant. Voyez, c'est des jeux de mots. L'impôt sur le revenant, oui. Non, c'est. Alors, mais ce qui vous voulez, c'est qu'à l'époque, j'ai lu ça, mais vraiment, en me disant, il veut me dire qu'il y a quelque chose dans mon histoire que je vais raconter qui va s'expliquer là-dedans. Donc, je cherchais le sens dans le réservoir, quoi. Je n'ai rien trouvé, enfin, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais. Quel savoir. Oui, c'était sympathique de sa part, peut-être, mais. Non, ça n'a pas fait de mal. Hein. Mais, ça, voilà, il a fallu 20 ans de plus pour.
Alors.
20 ans de plus pour vraiment. Sens. Et ça m'est revenu que là. Hein, je n'avais pas oublié, parce que je n'oublie pas une chose comme ça, mais. C'était resté un peu une énigme, quoi. Voilà. Je voulais transmettre.
Tu veux bien rapatrier le micro, s'il te plaît, devant. Merci.
Hâte-toi lentement de la tortue.
Oui.
me faisait penser au fait que Lacan parle des cas d'urgence. Et c'est quand même, bon, c'est très joliment dit, tout ça, on l'a évoqué plusieurs fois, mais quelle est l'urgence? Qu'est-ce qu'il désigne comme urgence? Parce qu'effectivement, il y a une espèce de contraste un peu comique, quand on sait les analystes qui durent 10, 20, 15 ans, et ils nous parlent de ces cas d'urgence. Qu'est-ce que c'est l'urgence? Non, c'est ça, ça m'évoquait.
Enfin,
ça m'évoque, c'est pas tellement une question,
oui.
C'est votre hâte-toi lentement et tout ce que vous avez fait valoir sur le temps. Qu'est-ce que Lacan a fait? Qu'est-ce qui fait qu'il a mobilisé ce terme? Alors, bien sûr, c'était adressé aux Anglais. Il y a toujours dans les textes de Lacan les adresses portent toujours la marque de l'interlocuteur, si je ne me trompe pas chez Lacan. Alors peut-être qu'il y avait une petite note comme ça pour leur signifier que lui aussi se préoccupait de que ce ne soit pas trop long, etc. Mais enfin, c'est pas ça l'essentiel. C'est quand même... Donc si on le prend vraiment plus fortement, quelle est l'urgence? Quelle urgence désignait-il? C'est la question.
On parle aussi de précipitation de fin.
C'est pas pareil. Précipitation de fin, c'est temporaire. La urgence, ça n'est pas temporaire. C'est une urgence qui dure sur des années.
Ce besoin pressant de... Je sais pas. Oui, ou d'être dans un état qui demande... Enfin, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on peut toujours être quand même pressé que ça... Ça change.
Bien sûr. J'ai une question à Patricia, mais c'est pas une question. C'est à deux moments, au point du texte, tu fais référence, tu dis encore faut-il que l'analysant soit prêt à l'entendre.
Oui.
Alors, pardon, je te rends le
du coup, je me suis dit, mais ça veut dire qu'avant, il n'entendait rien. Ça veut dire qu'il y a un moment précis où il peut entendre.
Ben, c'est-à-dire que il y a des interprétations qui n'ont pas. Enfin, qui, une interprétation qui est une interruption de séance ou qui est la reprise d'un signifiant, ou qui, c'est quand même des choses qui sont là tout du long de l'analyse. Alors, pourquoi il y a certaines interprétations qui résonnent justement et qui produisent quand même un effet qu'ils n'ont pas produit avant?
Est-ce que pour parler d'interprétation, il ne faut pas qu'il y ait une coupure tout le reste?
Oui. Oui, mais c'est alors oui, c'est ça, c'est que ça a produit un effet de coupure, parce que sinon il y a des coupures qui ne produisent pas d'effet de coupure aussi. Mais effectivement, c'est là qu'on peut dire que il y a eu une interprétation.
Il y a une question dans la salle là-bas. Là, peut-être quelque chose de surprenant, et l'analyse le dit aussi, s'il y a un ressenti, il y a une compréhension entre les deux parties, le dit, au moment il doit le dire, c'est quelque chose qui ne se calcule pas, c'est quelque chose, et c'est justement par rapport à ce dire, il y a une interprétation qui fait mouche à ce moment-là, qui permet de, justement d'aller voir dans votre passé, et c'est là où vous sentez mieux, d'accepter votre passé pour pouvoir devenir un être dans le bien-être. Donc, il y a toutes ces nuances-là qui sont un petit peu... donc voilà. Tout ce que je voulais dire, mais c'est quelque chose de très sensitif, c'est une introspection permanente, et finalement l'analyse se fait entre les séances beaucoup. La séance c'est une chose, mais l'analyse pour moi c'est vraiment un travail continu. Dès vous levez le matin, vous couchez le soir, vous avez l'interpellation de journée, c'est bien d'actes. Donc après, voilà, il y a effectivement la
ça se fait dans l'autobus.
Qui est assez mathématique parfois pour certaines personnes. En même temps, c'est assez naturel quand vous la vivez de manière humaine. Et,
elle dure non seulement des années, mais toute la nuit et toute la journée.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de sens, j'imagine. Bon. En psychanalyse, analyse aussi lui-même de manière, on va dire, personnelle. Effectivement, on a besoin d'un tuteur ou d'une personne qui vous suit, qui vous accompagne, c'est une chose, mais...
Voilà, à un moment, vous arrêtez d'aller voir le tuteur.
Bien évidemment, tout dépend.
Nous, on appelle la fin.
Voilà, je suis d'accord, mais la fin qui peut être reprise finalement, c'est comme vous dites, une coupure, c'est on a besoin d'une deuxième coupure pour pouvoir finalement donner une enveloppe à la première et puis arriver au sens originel et pas original. Enfin, après, c'est un terme de. Voilà.
Ok. Martine.
Oui, je voulais juste demander à Didier qui, s'il voulait bien reprendre cette affaire de enseignement comme savoir ou faire et enseignement où il y a trois signifiants différents. Je mettrai moi le. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre le deuxième du côté de la transmission, c'est-à-dire ce qui effectivement ouvrerait éventuellement le désir de l'analyste, alors que le premier ouvre peut-être au savoir de l'analyste comme savoir philosophique, mettons. Hein. Et alors, qui c'est qui saigne?
C'est quand même l'analyse, on essaye. Mais ça m'est venu, je veux pas dire. C'est. Oh, non, je crois que ça m'est venu aussi d'une anecdote. J'avais Moulin comme prof, et un jour, il était à la fac, et il est arrivé avec un morceau, des doigts enveloppés dans quelque chose, et donc il dit. Ça saigne, l'enseignant saigne. Il y a lui-même. Donc je pense que c'est ça qui m'est revenu quand j'ai écrit saigne, l'enseignement, et tout d'un coup je me suis dit, mais dans l'enseignement, si on joue sur l'équivoque hein, entre le A et le I, il y a aussi là. Donc d'y mettre aussi quelque chose de soi. Et peut-être qu'après, dans le texte sur la fin, sur la question de la transmission, ça vient de là. Ça m'est venu d'une certaine manière, on a beaucoup parlé de la durée des analyses. Pour moi, c'est aussi la question de la durée des comme. Parce qu'il n'y a pas, à mon avis, possibilité d'une fin d'analyse sans école. Il n'y a pas d'analyste, même sans école. Sinon.
Alors là, vous prenez une position légère, enfin Freud prend une position légèrement différente de Beigbeder. L'amour ne dure pas 3 ans, l'amour dure 5 ans, ou plus exactement, l'objet d'amour dure 5 ans, puisque l'amour est éternel, évidemment. Alors, vous, à un moment, vous laissez entrevoir, je vous poserai des questions plus théoriques après si on a le temps, mais vous laissez entrevoir que vous avez une lecture de l'histoire des associations analytiques lacaniennes personnelles, et ça m'intéresse.
Je me suis posé la question de savoir si on pouvait peut-être essayer de comprendre pourquoi créer autant d'écoles.
Et alors, quel est votre point de vue? Parce que moi, c'est une question.
Non, mais je n'ai pas forcément un point de vue très, très étonnant. Je me suis dit, est-ce que. C'est la question de savoir si les analystes font groupe ou pas. Est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça veut dire que les analyses n'ont pas été poursuivies assez longtemps quand il y a un problème comme ça dans les écoles? Ça se répète. Enfin, voilà, c'est aussi des questions. Que,
Didier, vous voyez, moi, j'aime bien les
très extrême, hein, donc j'aimerais bien suivre la piste, mais si vous dites il ne peut pas y avoir d'analyste sans école, vous voyez sur le nombre de gens analystes qui exercent, sur lequel vous tirez un trait. Oui, vous...
Non, mais je veux dire.
D'accord.
On ne peut pas être sans école fixe, quoi. Je ne vois pas comment on peut. Non, mon raisonnement, c'est que la psychanalyse s'arrêterait. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a des écoles qui s'engueulent, qui ne sont pas d'accord, des gens partent, il y en a qui créent d'autres trucs. Après, c'est un peu.
Au fond, ça revient à dire, ça c'est intéressant, je trouve, ça revient à dire que la psychanalyse, ça n'est pas seulement son expérience, mais c'est sa transmission.
Oui.
Et ça rejoint la question de Martine. La transmission étant interne à l'expérience même. Là, ça. C'est tout à fait précieux. Oui. Non, d'analyste à analysant.
Est-ce qu'il se transmet aussi, c'est
et puis d'analysant à analyste. Pardon.
Oui, absolument. C'est une grande question.
Oui, mais c'est ça.
De la transmission. Je veux dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que même ce qu'on transmet ici, je veux dire, on a fait longtemps, de transmettre uniquement un savoir universitaire, c'est embêtant qu'une école transmette que ça. Est-ce qu'on peut éviter ? Comment le faire ? Bien sûr que dans la psychanalyse, dans l'analyse, on transmet autre chose.
C'est une autre nature.
Mais dans une école.
Voilà. Comment passer de la psychanalyse à
l'analyse ? Moi, je dirais volontiers que dans une analyse, on ne transmet rien. On ne transmet pas dans une analyse. D'ailleurs, Lacan, au fur et à mesure que le temps passe, il dit « le sujet s'analyse ». On s'analyse avec un analyste, etc. Donc, il y a bien sûr, on apprend quelque chose. La psychanalyse, virgule, didactique. Ça, la virgule est très précieuse. Toute analyse menée à son terme est didactique pour le sujet. Alors, après, la question de la transmission entre les analystes, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas dans la cure que ça se transmet. Ça se transmet, il y a peut-être quelque chose qui est à transmettre entre ceux qui ont traversé cette expérience, voire à cultiver.
Parce que, au fond, attends, je ne vois pas comment tu peux dire que rien ne se transmet.
C'est pas au sens de,
de l'expérience.
Je dis dans une analyse.
Oui, dans une analyse.
On ne transmet pas. C'est l'expérience qui apprend quelque chose à l'analysant.
Oui.
Ça n'est pas de l'analyste vers l'analysant, on transmet. Quand on dit transmission, ça veut dire passage de l'un à l'autre.
Ça n'empêche, ça n'interdit pas qu'il y ait la médiation de l'expérience. C'est par l'expérience que le discours analytique se transmet.
Là,
oui.
Je suis en train de parler d'une cure.
Oui, oui, oui.
Dans une cure, on ne transmet rien. Dans une cure, on ne transmet rien, sauf peut-être qu'on est en charge de maintenir qu'une analyse soit une analyse.
Oui.
Et pas une psychothérapie, et pas... Bien sûr. Non, mais je n'enlève pas à l'analyste tous ses mérites et toute sa fonction, rassure-toi. Mais tu es soulagée, j'espère. Mais après, la question de la transmission dans les communautés analytiques, on ne peut pas dire que Lacan n'a rien transmis. Quand même. Je crains même qu'il soit un des seuls à transmettre vraiment quelque chose.
Mais quoi ?
Oui. Parce que il a quand même transmis ces diverses constructions de la structure de l'expérience. Elles sont successives, il y en a plusieurs. Mais ça, il l'a bien. C'est bien quelque chose qu'il a réussi à transmettre. Sinon, il n'y aurait pas. Pas forcément complètement à chacun et à tous, mais sinon, il n'y aurait pas de gens qui se diraient lacaniens, comme il y en a qui se disent freudiens. Donc à ce niveau-là, il y a bien une transmission. Et tout le problème que soulevait Didier, je crois, c'est à l'heure actuelle, puisque nous vivons quand même sur le stock Lacan. Hein, c'est quand même, ça crève les oreilles. Je ne sais pas si on s'entend, mais ça crève les oreilles. Donc la question, c'est est-ce que comment on peut, dans nos enseignements, dans ce qu'on fait nous-mêmes, comment on peut ne pas être dans le discours universitaire, c'est-à-dire se servir de Lacan à la place du semblant, mettre son savoir à la place du semblant. Ça se produit évidemment beaucoup. Et donc, c'est tout le problème de rester analysant en tant qu'enseignant. C'est ça la question, en fait.
Mais peut-être de se la poser régulièrement.
Bon, nous reste encore un peu de temps. On va revenir à, si vous voulez bien, à Ranck. Question à vous. Ah, il y avait une autre question ? Qui est-ce qui voulait poser une question ?
En effet, le mettre à la place du semblant, c'est vraiment le mettre au niveau du savoir universitaire uniquement. Peut-être que le mettre à côté, je veux dire, parce qu'il est forcément au niveau du semblant, mais ne pas le prendre pour du semblant. C'est juste ça, c'est pas très clair, je peux parler de vous, c'est une question que je suis en train de. Qui m'est venue, voilà, donc.
C'est de faire une différence entre l'arôme et. D'autres questions ? Ou je dégaine celle sur Ranck ?
Je
ne
sais pas si je pourrais répondre.
Oui, ce cher Ranck. Finalement, lui, il avait le sens de l'urgence quand même, de toutes ces tours et ces détours. On les balaye et on va direct à la cause, le traumatisme de naissance, on est tous secoués comme des malades par ça, et une fois qu'on en a pris la mesure, en plus, on remarque qu'il n'y a pas le rapport sexuel aussi, donc on sait d'où ça vient et on peut s'en débarrasser, parce que finalement... ça risque pas de se reproduire, le traumatisme de la naissance. Hein. Une fois qu'on a donné, on a donné. Alors, à la fois, moi, je trouve que c'est bien parce que je trouve que ça illustre un peu la question de l'urgence. Elle est de quel côté l'urgence ? Il y a bien sûr une urgence des patients. Moi, je dois dire, je les ai toujours compris, à la fois quand j'étais analysant et maintenant que je suis analyste, même si ça m'aide pas à faire en sorte que les analyses aillent plus vite. Quand les gens viennent, c'est parce qu'ils sont malheureux, parce qu'en amour, au travail, on le sait, et ils ont envie que ça s'arrange. Martine, non, il n'y a aucun... Qu'est-ce que... Ça y est, c'est bon ? Merci. Donc, je disais que je comprenais les patients qui voulaient que leurs difficultés amoureuses ou professionnelles, relationnelles ou autres, s'arrangent le plus vite possible. Et en plus, c'est vrai que c'est long, ça coûte cher, c'est des déplacements, enfin, bon, on peut pas reprocher aux gens uniquement d'être des malades du discours contemporain qui sont pressés alors que la psychanalyse, c'est zen. C'est pas l'idée zen, quand même, qui fait qu'on est l'idée bouddhiste, qui fait qu'on conteste cette urgence. Et donc, tout ça pour dire que je comprends les patients, je m'expliquais comment leur urgence finalement, les gens viennent nous voir parce qu'ils sont pas contents de là où ils sont. Ils sont pas contents de là où ils sont, de la place qu'ils se donnent, du fait de leur fantasme dans l'existence. Et ils rêvent d'être ailleurs. Ils rêvent d'être ailleurs, ils rêvent d'être à la place qu'ils se rêvent. Et ils sont pressés d'être ailleurs. Et toujours pressés d'être ailleurs. C'est finalement ce qui définit d'une certaine façon le névrosé. Il est jamais là. Et donc, je reviens à Ranck. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à limiter comme ça le symptôme à sa dimension gênante, dont on peut se débarrasser parce qu'il est superflu, eh bien, Ranck ne considère pas justement la dimension de réalisation qu'il y a dans le symptôme. Pas seulement de... Alors, on est habitué avec Freud à parler de satisfaction, mais le symptôme, c'est aussi quelque chose qui réalise d'une certaine façon... ou qui fonde la réalisation par le sujet de son projet fantasmatique. Ouais. Le symptôme, ça réalise quelque chose. Et donc, le sujet, il tient. C'est une, pour le dire, je réfléchissais à ça, je me disais que c'est une réalisation de suppléance au rapport. Et une réalisation de suppléance au rapport, une fois qu'on la tient, c'est pas du tout évident de la lâcher. Parce qu'on sait même pas que c'est une réalisation de suppléance au rapport. Ça, c'est pour expliquer d'une autre façon la durée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut du temps pour se rendre compte que ce n'est qu'un fantasme et cerner le fantasme. Mais oui, je suis d'accord avec avec vous là-dessus, sauf que symptôme, ça va être un autre symptôme. Aussi. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça, on répète un symptôme à un autre? On se plaint toujours d'un autre symptôme.
Oui, enfin, justement, à la fois c'est un autre et c'est toujours le même.
Oui.
Justement,
oui.
C'est toujours le même,
en
c'est
fait,
d'autres.
Ça met du temps.
C'est ça, c'est pour ça qu'il faut le temps.
Oui.
Et pour ça qu'il faut le temps. Voilà, ça c'était une question sur Rank. Qui a d'autres questions?
Je crois que ça ne marche pas. Si, ça marche. Que si j'ai bien compris, enfin avec la discussion sur que Lacan, si on l'utilise, pourrait devenir un discours du maître, hein, mais en même temps, un discours universitaire, mais en même temps, pour pouvoir se détacher d'un discours, hein, il faut pouvoir aussi l'avoir un petit peu saisi, c'est-à-dire à la fois mettre en lien à la fois sa propre expérience, les expériences qu'on entend, les analysant, enfin bon, et en même temps toutes les lectures, de travailler sur le texte pour pouvoir aussi s'en détacher, et ça c'est pas facile. C'est-à-dire pour pouvoir ne pas faire langue de bois, il faut pouvoir l'avoir intégré, que ça résonne, et je trouve que c'est pas simple de pas utiliser, enfin quand on fait des citations de Lacan, même de Freud, que ça soit pas collé au texte, mais il faut pouvoir s'en décoller, et je trouve que ça c'est très difficile. Celui qui a, enfin, ceux ou celles qui y arrivent, c'est déjà avoir une expérience de la lecture, du travail. Voilà, enfin, c'était juste une remarque. C'est pas si simple de dire faut pas qu'il y ait le discours universitaire, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est comme on essaye de se raccrocher quand même à quelque chose pour expliquer des expériences. Mais en même temps, il faut. Voilà. Je trouve que c'est un moment difficile de. Voilà, de se décoller de quelque chose. Enfin, on pourrait dire d'être un petit peu pas après Lacan, mais est-ce qu'il peut y avoir un après Lacan, se décaler un peu, quoi. Mais c'est pas si simple que ça. C'est ça, c'était une remarque.
Non, je t'ai parlé de toi, mais je pense que dans certaines interventions, on est déjà dans le discours universitaire, quand même. Donc c'est tout, c'est pour. Parce que moi, je pense que, comme je disais, que ça nous empêche de nous endormir. Sinon, c'est une pente facile, quoi. Enfin, pas facile, c'est pas si facile que ça, d'ailleurs. Mais, et peut-être qu'il faut aussi accepter que chacun d'entre nous, on peut se tromper, hein, faut dire, mais on peut aussi prendre des risques à prendre la parole, quoi. De temps en temps, on a un peu de mal, quoi. Moins ici qu'ailleurs, peut-être.
Mais... D'ailleurs, vous pouvez m'expliquer, je vais reprendre qui était cher à Vallas,
oui.
On ne parle plus dans l'école. On lit.
Même mon introduction. Hein? Même mon introduction, je l'ai lu. Même.
Et ça, c'est vrai que on a beaucoup critiqué l'école freudienne, mais il y avait quand même plus de paroles dans l'école freudienne qu'on a maintenant. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut faire le bavasser, hein. Bien sûr, il faut bien construire son travail, etc. Mais c'est un fait. Je voulais dire quelque chose sur ce point, Marc.
Oui.
Symptôme fantasme.
Mm-hmm.
Il ne faut pas trop emboutir les deux notions.
Mm-hmm.
Chez Freud, d'ailleurs, ça reste disjoint.
Ça l'est, oui.
Ça reste disjoint. Mmh. Il a d'abord trouvé les symptômes, et puis il s'est aperçu de la dimension fantasmatique plus tard. Et il a souligné que ça restait en quelque sorte, en dehors de l'élaboration des symptômes.
Mmh.
Substitut du rapport sexuel
c'est bien ce que j'ai dit. C'est, cette suppléance est chez chacun. Que le, absolument, mais que le fantasme habille, met en scène à l'occasion. Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais.
Et vous me dire, Colette, que ça expliquerait les, que les analystes restent avec leurs symptômes, et que.
Oui, c'est ça, ni petit ni grand, Didier, oui, oui. Chacun le sien.
Petit au sens de ce qui explique les...
Plus ou moins chiant, je suis d'accord, mais bon, petit, bon, pas plus...
Dans l'école, quoi. Mmh.
Bah, c'est pas facile de faire cohabiter
des châteaux. Ouais. C'est plus élégamment dit.
Partout depuis toujours, et même à terme, c'est pas seulement